OK, les messieurs, on va aller dans Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 7. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, si vous voulez, on va demander la bénédiction du Seigneur pour la compréhension et l'application du texte dans nos propres vies. Seigneur, tu connais nos difficultés, nos misères, nous sommes des pécheurs. On parlait tantôt de confesser nos péchés, nous voulons le faire collectivement, ensemble, d'un même cœur, Seigneur, en te demandant pardon pour tous nos péchés que nous avons faits cette semaine, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils aient été dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos omissions et même dans nos fautes secrètes, Seigneur, nous te demandons humblement pardon. Te demandons de nous donner la force d'être de meilleurs combattants envers le péché, de le haïr comme tu le hais toi-même. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir par ton Saint-Esprit dans ce combat, car nous avons vraiment besoin de toi. Ouvre notre intelligence ce matin, que ton esprit souffle sur cette assemblée, que le texte qu'on va étudier fasse résonner quelque chose en nous et, Seigneur, qu'il nous ouvre la volonté à vouloir accomplir ce que tu veux qu'on en comprenne dans ce texte. Parce que si on étudie ta parole, si on entend ta parole et que cela ne provoque pas chez nous un changement, si petit soit-il, c'est très dangereux d'écouter la parole de Dieu, de la laisser passer par une oreille, de la laisser sortir par l'autre. Permets, Seigneur, qu'on retienne les enseignements que tu veux qu'on comprenne ce matin et qu'on les mette en pratique dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on te demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
C'est sûr qu'on a de la place. OK, j'ai intitulé le sermon de ce matin « Les trois stades de la chute tragique de l'homme ». Bien sûr, la chute, c'est beaucoup plus tragique qu'on le pense, parce que la chute a entraîné non seulement la chute d'Adam et de Ève, mais à cause de leur chute, a entraîné la chute de toute l'humanité par la même occasion. Alors, c'est une chute vraiment tragique. Et ce matin, ce qu'on va regarder, c'est qu'il y a des stades dans cette chute-là. Alors, on va regarder que dans le verset 1, c'est le stade de la conception. Alors, avant de faire quelque chose, on le conçoit dans notre esprit. Peu importe ce qu'on veut faire, on commence par y penser dans la tête, puis après ça, on le réalise. Après ça, il y a un stade dans les versets 2 à 6 qui est celui de la concertation. Autrement dit, Ève et Adam se sont concertés dans le but de faire la même chose. Et la troisième, c'est vraiment le stade de la condamnation. Alors, la condamnation du verset 7, autrement dit, au verset 7, on se rend compte que là, ils ont tombé toutes les deux et que ça a eu des conséquences qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut imaginer à première vue. Alors, on avait vu dans les deux premiers chapitres de la Genèse que ça avait pour but de préparer la scène pour l'observation de ce qui devait être la pire tragédie de l'humanité. Donc, qui est l'entrée du péché dans le monde et ses conséquences désastreuses. L'entrée du péché dans le monde et ses conséquences désastreuses, si on pense qu'on sait ce que ça veut dire, on se trompe vraiment beaucoup. Parce que les conséquences du péché désastreux sont beaucoup plus profondes, larges et profondes qu'on peut penser à première vue. Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde de mal, de meurtre, comme là on vient d'entendre parler que à Fort Lauderdale, il y a un gars qui rentre dans le tout, il en tue cinq. Ça, c'est une graine de mal. Il y en a, c'est comme ça, là, il y en a des milliers de gestes qui se font comme ça, à part de ce qu'on ne sait pas. Alors, les conséquences du péché, c'est énorme. Donc, on va les regarder un petit peu plus longtemps. On avait assisté aux merveilles de la création dans les chapitres 1 et 2, la création de l'univers, la création de la terre. On avait fait observer les différentes merveilles de la création. Premièrement, du fait que c'est une création ex nihilo, qu'on appelle en théologie, donc à partir de rien. Dieu, par sa parole puissante, dit et la chose existe. Pour nous, c'est quelque chose que c'est difficile de concevoir, qu'une personne peut être assez puissante pour juste dire que les étoiles soient et qu'elles soient par milliards. Avec tout ce que ça comprend de beauté. Et la même chose pour les arbres, la même chose pour les animaux, la même chose pour les océans, tout ce qui existe. Alors, on a vu dans les premiers chapitres de la Bible la puissance du Seigneur. On a vu aussi qu'il avait fait ça dans une période de temps très limitée, 6 jours. Et on a vu qu'il avait créé les conditions nécessaires à l'apparition de la vie humaine. Donc, la lumière, l'atmosphère, la terre, les mers, la verdure, les corps célestes, les poissons, tous les animaux et, le dernier jour, l'homme. Quelque part, autrement dit, le Seigneur est en train de nous préparer à nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé sur la terre, qu'on soit dans l'état qu'on voit autour de nous, le péché, la violence, l'exploitation, le mensonge, etc. Alors, le Seigneur, on se souvient qu'il avait donné, il avait placé l'homme dans le paradis terrestre et Adam et Ève étaient littéralement comblés de bonheur. Il n'y avait rien qui leur manquait du tout. Mais Dieu avait placé l'homme sous probation. Dans Genèse 2, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voyez-vous, il n'a pas dit « ça te tente, mangeant, ça te tente pas, mangeant pas. » Un ordre. Alors, moi, j'ai déjà été dans l'armée, je sais que quand un officier te donne un ordre, tu as besoin de t'exécuter, comme on dit. Mais quand Dieu te donne un ordre, imaginez-vous si on était obligé de s'exécuter avec des affaires humaines comme des militaires. Quand Dieu donne un ordre, on se devrait d'être parfaitement obéissant. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les... Remarquez bien les mots parce que c'est important dans l'étude du texte qu'on fait aujourd'hui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, on avait vu aussi dans les autres chapitres que le Seigneur avait donné aussi à l'homme les dons de l'autorité. L'autorité en le sens qu'il lui avait donné la capacité de nommer les choses, nommer les animaux, leur donner des noms. Qu'il avait donné aussi la femme à l'homme, parce que l'homme, autrement dit, Adam était seul, la femme a été créée. Et ensuite, le mariage est institué dès le début du livre de la Genèse. Alors, la mise en scène, on avait besoin d'une mise en scène pour savoir ce qui s'est passé. Le Seigneur a préparé la scène pour nous montrer. Chapitre 3 de la Genèse, c'est un chapitre clé pour la compréhension de toutes les Écritures. Mais, on va assister au problème aujourd'hui, mais dans le même chapitre, dans le verset 15 du chapitre 3 de la Genèse, on a déjà... Suite après la chute, Dieu fait une promesse prophétique de l'envoi du Messie qui va régler le problème du péché qui est rentré dans le monde. Genèse 3, 15, c'est important qu'on le réalise, même si ce n'est pas dans l'étude de ce matin, mais c'est dans le même chapitre. On voit qu'il y a eu la chute, puis il y a eu tout de suite la miséricorde du Seigneur. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme », il parle au serpent. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand on arrivera là, on déterminera un peu plus toute la signification, la richesse de la signification de cela. Il y a des personnes, des fois, qui ont étudié la Genèse. Disons que vous achèteriez 100 commentaires sur la Genèse. Il y en a plus que ça, là. Mais disons que vous n'achèteriez 100 au hasard. Il y a des personnes qui ont fait des commentaires sur la Genèse que je serais porté à dire que c'est presque des incroyants. Parce que tout ce que les Écritures disent, ils finissent toutes par tellement tordre le sens de ça que ça ne veut plus dire ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des personnes qui disent Adam et Ève, ça, c'était pas deux personnes. C'était pas. Ils disent c'est pas des hommes, c'est une représentation symbolique de l'humanité. Mais vous allez avoir un problème très sérieux si vous adoptez une position comme cela. Parce que vous allez voir que les Écritures se tiennent, sont toutes attachées comme par des fils, un peu partout. Tous les livres se rencontrent. Quelque part, si vous adoptez une position fausse dès le départ, c'est sûr que ça va se refléter dans l'ensemble. Parce que tout est interrelié dans les Écritures. Alors, si on va regarder le stade de la conception dans le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Alors, la Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance quant à la personne qui a conçu le plan de faire chuter l'homme. Le texte nous dit le serpent. C'était Satan lui-même, incarné dans une chair d'animal, c'était une créature. L'ennemi de l'âme des hommes était une créature déchue. C'est important parfois de regarder ce que le texte dit. On dit le serpent, là, on est porté à penser de voir juste l'animal. Il y a un problème, il y a un animal qui parle. On a un petit problème. Mais à quelque part, les Écritures nous disent que c'était un serpent, mais que ce serpent-là avait des caractéristiques. Et c'est quand on va voir dans d'autres livres des Écritures qu'on apprend sur ce serpent-là. Ce qui habitait le serpent, c'était le fameux chérubin, un ange déchu, dont on parle de lui dans deux passages classiques. Si vous étudiez sur Satan, vous allez automatiquement, on va vous citer ces deux passages-là. Ésaïe 14, versets 12 à 15, et aussi Ézéchiel 28. C'est facile à retenir. Un, c'est 14, l'autre, c'est 28. Alors, vous retenez Ésaïe 14, puis Ézéchiel 28. Et là, on va vous décrire qui était Satan. Alors, dans Ésaïe 14, versets 12 à 15, ça dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » C'est qui ça? C'est Satan. Alors, si vous regardez, si vous étudieriez le texte avec un petit peu d'attention, le nombre de fois dont il dit « je », il est vraiment centré. « Je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça. » Mais dans le verset 15, le Seigneur m'a dit « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Alors, on sait que c'est un chérubin. Un chérubin, c'est un ange d'une grande dignité qui avait pour but de protéger la sainteté de Dieu. Autrement dit, si quelqu'un ferait de s'approcher de Dieu, sa garde. Puis ils sont puissants, les chérubins. Alors, c'était un chérubin qui était dans une position de très, très, très grand privilège. Il marchait devant Dieu. Et il a chuté. Alors, on parle d'un être d'une très, très grande beauté. C'est drôle, Satan, parce que dans l'image moderne, dans les images un peu populaires qu'on voit de Satan, c'est toujours noir avec des cornes, puis une grande queue. Alors, les Écritures ne parlent pas de Satan avec cette image-là. On en parle plutôt dans un sens d'une grande beauté. Alors, il était un être d'une grande beauté, d'une grande intelligence. Autrement dit, essayez pas de vous accoter avec Satan en termes d'intelligence, vous allez arriver deuxième, ça c'est sûr. Il était très intelligent. Et il était aussi habile. On va aller voir Ézéchiel 28, versets 12 à 19, parce que là, on a un peu plus de détails sur ce que je viens de vous affirmer. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Dieu. Avant, juste une petite mention, parce que j'ai oublié de vous le dire tantôt dans Ésaïe 14. Dans le verset 12, ça dit « Te voilà tombé, astre brillant. » Mais dans les versions King James, dans les versions anglaises, c'est « Oh Lucifer ». Alors, les versions anglaises, je ne sais pas pourquoi, ils ont traduit ça « astre brillant ». Là, je rentre dans mes dictionnaires d'hébreu, là, Mais les versions anglaises, comme la King James, quand vous avez dans la King James, verset Ésaïe 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, ô Lucifer. » Fait que là, c'est clair que ce verset-là parle de la chute de Satan au moment qu'il était ange. Alors là, on revient dans Ézéchiel 28. « Fils de l'homme prononce une plainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. » Et regardez ce qu'il disait de Satan. « Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden le jour de Dieu. » Ah, le jardin de Dieu. « Tu étais en Éden. » Éden, on fait un lien avec la Genèse. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » On apprend plusieurs choses de lui. Beaucoup de pierres précieuses et très habile en musique. Alors, c'était pas un deux de pique. Ça dit, après ça, tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Il y a un mot-clé ici. Mm-hmm. Satan, c'est une créature. Alors, c'est une créature qui a voulu s'élever au rang de Dieu. Et non seulement il a voulu faire ça, mais il a voulu entraîner l'humanité à adopter la même idée que lui. Voyez-vous, le verset 14 dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Alors, on apprend là-dedans que Satan, à cause de sa beauté, de sa sagesse, de sa richesse, de son commerce, a péché. Dieu l'a précipité de sa position de très, très grande privilège. Alors, l'ennemi de l'âme des hommes, on le sait, les Écritures nous l'apprennent, il est déjà vaincu, il est déjà jugé, puis il est déjà condamné. Mais le texte qu'on va étudier aujourd'hui nous montre des choses sur lui que souvent, quand on lit le texte rapidement, on ne voit pas ces choses-là, et pourtant qui sont d'une très, très grande utilité pour la conduite de notre vie chrétienne. On va apprendre ses méthodes. Alors, le texte, juste dans sept versets, là, nous montre la méthode que Satan utilise quand il s'agit de tentation. Première chose qu'on voit, qu'il est rusé. C'est-à-dire qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Alors, il est rusé. Il approche. Une des façons de voir sa ruse, c'est qu'il s'approche de la femme alors que son mari n'est pas là. Voyez-vous? Alors, loin de son mari, et alors qu'elle était proche de l'art de la connaissance du bien et du mal. Il sait choisir ses circonstances et les choisit avec très grand soin. Ses méthodes semblent inoffensives à première vue. Et quelle est la méthode? Le questionnement. C'est rare qu'il va commencer par affirmer quelque chose que c'est faux. Ça, c'est faux, la religion, c'est faux, la Bible, c'est faux, Jésus-Christ, c'est faux. Il ne dira jamais ça. Il va s'approcher au moment opportun, et là, il va poser une question. Il n'y a rien de plus dangereux que d'engager une conversation avec le malin. Voyez-vous? Il dit, « Dieu a-t-il réellement dit? » Ses méthodes aussi sont ambiguës parce que sa question manque de clarté et ajoute à ce que Dieu a réellement dit. Et vous, la méthode, il questionne, mais il ajoute. Parce que ça dit, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Satan dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Voyez-vous ce qu'il fait? Il faut le voir. Là. Parce que l'autre, il dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Puis ici, il est en train de dire à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Il y avait la femme et l'homme avaient déjà la permission de manger tous les arbres du jardin. Alors, il pose une question, mais en la posant, il ajoute à la parole de Dieu ce que Dieu n'avait pas dit. Alors, sa ruse se révèle par les faits suivants. Satan reconnaît que Dieu a parlé. Mais il ajoute à la parole de Dieu. Après ça, après qu'il a ajouté, là, il nie la parole de Dieu. Et quatrième mouvement, qu'on pourrait dire, il questionne les motifs de Dieu. Et après ça, cinquième mouvement, il promet des bénéfices, l'ouverture des yeux, le plaisir, et d'être comme Dieu, l'orgueil. Alors, il base ses promesses sur le mécontentement et l'ambition. Les méthodes de Satan, de cette époque-là, et d'aujourd'hui, ça n'a pas changé du tout. Il va toujours procéder de la même façon. Il questionne, il ajoute, ou il enlève. Après ça, il nie la parole. Après ça, il questionne les motifs de Dieu. Alors, bien sûr, son objectif dans tout cela, c'est de s'interposer entre l'âme de l'homme et son Créateur. De détourner le cœur de l'homme de Dieu. De diriger l'homme vers la confiance en lui-même. N'est-ce pas ce qu'il a fait quand il a décidé de faire quelque chose qui était interdit? Quatrièmement, d'usurper la place de Dieu et de rendre l'homme assujetti à sa volonté. Cinquièmement, de substituer sa parole à celle de Dieu. Et sixièmement, ce qui n'était pas un mince péché, de questionner la bonté de Dieu et ses perfections. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Chose importante à remarquer, c'est que la direction de sa ruse, il faut regarder de quelle façon il travaille. Lui, il travaille de l'extérieur dans le but de changer l'intérieur. Dieu, lui, il travaille toujours à partir de l'intérieur dans le but de changer l'extérieur. Ça, c'est important de réaliser ces choses-là. Alors, le Seigneur travaille de façon inverse, il travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Les tentations du Satan sont toujours mensongères, subtiles, malicieuses et très audacieuses. On va regarder les versets 2 à 6, parce que là, on voit qu'il y a eu une concertation entre Adam et Ève pour arriver à répondre à la tentation. Verset 2 à 6, « La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. » Remarquez-vous quelque chose. « Vous n'y toucherez point », ce que Dieu avait dit ça. Donc, le malin enlève, l'homme ajoute. Voyez-vous? Quand on commence à jouer avec la parole de Dieu, Satan, lui, enlève des choses et l'homme, c'est la femme, il dit, « De peur que vous ne mouriez. » Est-ce que Dieu avait dit « De peur que vous ne mouriez » Il avait dit « Vous mourrez certainement. » Voyez-vous, on joue avec la parole. On enlève, on ajoute, on modifie. Et ça, ce n'est pas d'hier, là. Ça continue encore aujourd'hui. Satan continue à faire son œuvre par rapport à la parole de Dieu, soit en ajoutant la parole de Dieu, soit en enlevant la parole de Dieu, ou soit en modifiant la parole de Dieu. Quand on parle des problèmes qu'il y a en théologie et avec les théologiens modernes, c'est toujours la même chose. Ou il ajoute à la parole de Dieu ce que Dieu n'a pas dit, ou bien non, il enlève à ce que Dieu a dit, ou bien non, il dit ce que Dieu a dit, mais il change les mots, il change les choses. Les tactiques, que ce soit par le malin lui-même ou que ce soit par ses serviteurs, les tactiques sont toujours les mêmes. Quand tu commences à jouer avec la parole de Dieu, en ajoutant, en enlevant ou en transformant, c'est sûr que tu te diriges vers une catastrophe monumentale. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, voyez-vous, il avait commencé par questionner. Là, ici, il ne questionne plus. Il affirme, « Vous ne mourrez point. » Enfin, ça prenait de l'audace, ça. Tu es en train de dire exactement l'inverse de ce que Dieu dit, puis tu te prends au sérieux. Mais ceux qui l'écoutent, s'ils prennent au sérieux aussi, ils vont avoir des problèmes. Bon, le problème s'en vient. Mais voyez-vous le questionnement, quand on parlait de l'étape du questionnement que Dieu, qu'après ça, tu questionnes les motifs de Dieu. C'est que là, tu laisses sous-entendre à la personne que si Dieu ne veut pas te donner ça, c'est parce qu'il veut garder des choses pour lui-même. Il pourrait te les donner, mais il ne te les donnera pas. C'est ça qu'il y a comme un questionnement des voies de Dieu, de sa bonté, de tout ce qu'il est. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Voyez-vous, il commence à y ouvrir l'esprit. Mais premièrement, tu ne mourras pas. Puis deuxièmement, il questionne les motifs de Dieu. Mais Dieu sait que si tu prends ça, tu vas venir comme lui. Oups, là, c'est la tentation, t'as forte. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Se concerter, ça veut tout simplement dire projeter ensemble, faire des projets ensemble, en discutant. C'est décider après réflexion. Donc, à quelque part, ensemble, elle, elle a pris la décision, mais il y a eu... Elle a sûrement voulu le convaincre, bien, toi aussi, il faut t'en manger. Puis... Alors, ce qui se passe ici, il y a d'abord conversation, puis la contestation, puis la concession, et puis la contagion. Si tu écoutes, puis si tu ne contestes pas ce qu'il est en train de dire, il va y avoir une concession, ça veut dire que tu vas dire, ouais, peut-être c'est vrai ce que tu dis. Et là, à partir du moment que tu fais ça, c'est vraiment la contagion qui arrive, les autres êtres humains vont tomber dans le péché également. Alors, il va y avoir une conversation. La femme répondit au serpent. Alors, on voit que quand l'être humain commence à vouloir agir en discutant avec Satan, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes très sérieux. Rien n'est plus dangereux que d'entrer en conversation avec Satan. Nous voyons ici que Ève est entrée en conversation avec Satan. Alors, on constate rapidement que cette faute fondamentale l'entraînera dans les autres marches descendantes de la désobéissance. C'est comme si vous verriez des escaliers, et il y a des idées qui sont là-dedans, les marches descendantes. Premièrement, il y a la curiosité, première marche. Deuxième marche, le vacillement. Peut-être. Un coup qui dit vrai. Après ça, le mécontentement. Tu as tout ce qu'il faut, tu es heureux, tu as tout ce que tu as besoin. Mais là, quelque part, il t'a semé une idée dans la tête que Dieu veut garder des choses pour lui. Tu es mécontent. L'ambition, après, autrement dit, l'autre marche qui descend, c'est que là, tu dis oui, peut-être que c'est vrai, peut-être que je pourrais venir comme Dieu. Et ensuite, bien entendu, la chute personnelle et la chute qui en entraîne un autre. Le péché, c'est souvent ça. Non seulement on ne se contente pas de pécher, mais souvent on prend plaisir à en entraîner d'autres dans le péché également. Ça, c'est la manière de fonctionner. Elle n'appelle pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal par le nom que Dieu lui a donné, mais elle l'appelle l'arbre qui est au milieu du jardin. Puis, elle ajoute à la parole de Dieu, en ce sens, elle imite le tentateur en disant « Vous n'y toucherez point ». Que Dieu n'avait pas dit. Puis elle affaiblit la sévérité de l'avertissement divin en faisant dire à Dieu de peur que vous ne mouriez. Donc, l'avertissement que Dieu avait donné était très sévère et très rigoureux. Elle l'adoucit un petit peu. De peur que vous ne mouriez, le Seigneur avait dit clairement que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il y a une contestation qui est faite par le serpent. Vous ne mourrez point. Alors ici, dans le verset 4, on observe quelque chose quant au caractère, la négation de la parole de Dieu par Satan, qui utilise toujours pour tenter l'homme. La négation de la parole de Dieu, première chose dans le verset 4. Il dit exactement le contraire de ce que Dieu a dit. La deuxième chose qu'on remarque, c'est qu'il fait une suggestion malicieuse quant au caractère de Dieu, dans le verset 5. Malin suggère que Dieu a privé ses créatures de bénédictions qu'il a voulu garder pour lui. Il laisse sous-entendre à Ève qu'elle pourra connaître de plus hautes satisfactions en délices. Intéressant, dans le verset 5, le mot hébreu utilisé, en verset 5, c'est le mot Elohim. Elohim, c'est un nom hébreu qui est au pluriel. Alors, il y en a plusieurs versions qui ont mis, vous serez comme des dieux avec un petit D minuscule. Mais la version Darby, par exemple, où il dit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu avec un D majuscule. Et la version New Geneva Study Bible, you will be like God. C'est plus fort. C'est comme ton ambition, c'est de devenir comme Dieu. Tu veux devenir Dieu. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans le Nouvel Âge aujourd'hui, n'est-ce pas ce qu'on voit? Des gens qui se pensent Dieu, puis nous sommes des dieux, j'ai lu ça souvent. J'ai vu un moment donné dans un magasin, il y avait un livre, c'était marqué « Vous êtes des dieux, wow! » Ça, c'était le titre. « Vous êtes des dieux, wow! » Fait que là, quand tu te mets à lire ça, et là, c'est séduisant. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent un vieux mensonge du début de la Genèse. Ils te le ramènent en te disant « Ah, ben, tu es une partie de la création. La création, c'est Dieu, donc tu es Dieu. » Il y a à partir d'un raisonnement complètement faux. Alors, Satan suggère également qu'elle sera comme Dieu lui-même. C'est la première faute de l'homme. Et l'orgueil, c'est le premier péché de l'homme, hein, l'orgueil. Alors, constatons la progression dans la méthode de Satan. Il questionne, il nie, il blasphème. Parce que quand tu questionnes Dieu, tu blasphèmes. Dieu a-t-il réellement dit, tu es en train de te faire douter de la bonté de Dieu. Tu es en train de te faire douter de la générosité de Dieu. Tu es en train de te faire douter de plein de choses. Alors, il questionne, il nie, il blasphème et il promet. Tout le temps la même méthode pour garder la chute, nos chutes dans quelque péché que ce soit, il fait toujours la même affaire. La concession maintenant dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Comment c'est, à quelle heure, moi, là? Je ne sais plus, là. On avait remis 10 heures. OK. Donc, presque 10 minutes. OK. On apprend ici des tactiques de Satan. 2 Corinthiens 2, 11 nous parle aussi. Paul dit, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Les desseins, c'est tout simplement le diable a des intentions quand il nous approche par toutes les différentes méthodes. Éphésiens, chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. » Satan continue d'attaquer et il va continuer d'attaquer jusqu'à la fin parce que c'est sa personne. Mais on voit le côté contagieux du péché, c'est dans le verset 6, la dernière partie du verset 6. Donc, elle a péché elle-même, tout, c'est elle qui a tombé. Mais elle ne s'est pas contentée de dire, « Ben là, toi, fais ce que tu veux. » Elle en donna aussi à son mari, qui est auprès d'elle, et il en mangea. Les Saintes Écritures nous enseignent que le pécheur ne se contente pas de se vautrer dans le péché lui-même. Il veut, inévitablement, entraîner d'autres personnes avec lui, même ses proches. Romains 1, 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors on voit l'effet d'entraînement du péché. Alors dans le verset 7, on apprend quelque chose d'important. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, la condamnation de la prise de conscience. La désobéissance a amené une prise de conscience. sont nus. Alors, la sentence officieuse, on pourrait dire, tombe sur eux le jour même de leur transgression, comme promis par l'Éternel. Ils prennent conscience instantanément de leur corruption, de leur pollution, et cherchent à cacher leurs fautes et à fuir hors de la présence de Dieu. Ils virent soudainement leurs innombrables misères morales dans leur volonté d'être indépendants de Dieu, et que la connaissance que Satan leur avait promise était un fruit empoisonné, une connaissance destructrice et culpabilisatrice. Leur conscience est maintenant éveillée à la corruption de leur cœur, à la tragédie de leur condition et à leur perdition. Tout ça est comme instantané. Donc, la condamnation se fait par la réalisation de leur nudité. Ils sont dévêtus de tous les honneurs et de toutes les joies de leur état paradisiaque et dorénavant exposés à toutes les misères auxquelles ils peuvent s'attendre d'un Dieu en colère. Le péché lui apporte la honte, la dégradation et la privation des signes d'honneur qui étaient les leurs et la disgrâce devant Dieu et devant les anges. Ils perdent leur paix et leur confort d'âme. On voit là-dedans, le péché a toujours tendance à se cacher, à se couvrir. Regardez n'importe quel péché, quand on regarde les nouvelles, des fois c'est drôle parce qu'on parle des maires un peu partout, les régions de Montréal qui se font pogner. Et moi, je trouve ça tellement drôle parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui se fait pogner, il est toujours victime. C'est toujours du monde qui cherche à lui faire du mal. Tout le temps. Alors, c'est la tactique du péché. Quand tu te fais pogner dans le péché, tu cherches à te cacher, c'est comme tu cherches à te coudre des petites feuilles de figuier, un peu comme... l'homme n'a pas changé d'un... Il est pareil comme il était à l'époque. Alors, mais le réveil va être plus brutal que ça lorsque Dieu... On a vu que c'était comme la première... constatation, c'est qu'ils ont constaté qu'ils étaient tout nus et qu'ils sont cachés et qu'ils ont cherché à se cacher et ils se sont éloignés de Dieu. Mais on va voir que c'était, comme on pourrait dire, la sentence officieuse. Un peu comme quand on voit un maire se faire pogner. Ben, officieusement, on sait qu'il va, ça va arriver un jour, là. Mais officiellement, c'est juste quand la cour a tout regardé, les témoins, puis a tout examiné les choses, qu'il est véritablement condamné. Et la semaine prochaine, on va voir la sentence officielle. Alors, c'est un réveil brutal, mais le réveil va être encore plus brutal quand il va avoir la sentence officielle. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de ce texte aujourd'hui? Très rapide, mais il y a quand même plusieurs choses fondamentales qu'on apprend sur Satan, sur nous-mêmes, et qu'on apprend aussi sur Dieu. Alors, connaissons notre ennemi. Qui a déjà fait une étude sur Satan dans toutes les Écritures? Regardez sa manière d'agir, regardez ses outils, ses tactiques, sa ruse, etc. Et son activité et son caractère. Rusé, malicieux, hypocrite, menteur, accusateur, séducteur, violent et meurtrier. Il y a tout ça simultanément. Son activité, trompons-nous pas, est incessante et est très puissante. Pas pour rien qu'il y a tant de choses qui se passent à la terre. Ses tactiques sont toujours les mêmes, le questionnement, l'ambiguïté, les fausses promesses, les innombrables attaques de la parole de Dieu en enlevant, en ajoutant, en transformant. Il exploite les faiblesses dans le but de donner une fausse représentation de Dieu, d'inciter au mal, etc. Implorons le Seigneur de mieux connaître notre ennemi pour mieux le combattre par la grâce de Dieu. Oui, le Seigneur peut nous donner une meilleure compréhension de Satan, mais je dirais aussi que nous, on a notre responsabilité de mieux le connaître. Quand les généraux, il y a une guerre qui commence, dont l'Angleterre contre, je sais pas moi, contre l'Allemagne, les généraux, là, plus ils connaissent l'ennemi, le caractère du général, le caractère de ses... Le secret dans la guerre, c'est de connaître ton ennemi. On est en guerre comme chrétiens. C'est ce que la Bible nous apprend dans Éphésiens 6. Alors, si on connaît bien notre ennemi, ça va nous donner des chances de mieux le connaître. Deuxième application, connaissons aussi nos faiblesses. Donc, connaître la force d'ennemi, ça c'est un avantage. Connaître nos faiblesses, ça en est un autre. Alors, notre imprudence avec les occasions de péché. Ève était imprudente. Elle était toute seule, elle était proche de l'arbre. Notre capacité aussi de se laisser séduire par les hommes et même par nos proches, d'engager des conversations avec Satan, de se laisser séduire par les promesses illusoires du diable. Souvent, il fait des promesses, mais comme une expression qui dit « ça goûte le sable ». Manger du sable, là, c'est ça, pas très bon. Le péché, c'est toujours pareil. Il te fait voir quelque chose qui est supposément bon, mais quand tu y as goûté, c'est toujours la même affaire, tout le temps. Alors, et un autre problème avec notre faiblesse, c'est de ne pas croire de façon absolue à la vérité que Dieu dit dans les Écritures, de se laisser aussi aller à la facilité et de ne pas prier assez. Ça fait partie. Quand vous étudiez Éphésiens 6, sur les, où il compare le chrétien à un combattant, c'est sûr que la prière, c'est une arme très puissante et qu'on n'utilise pas assez. Troisième application, réalisons les conséquences de la chute. Perte de dignité, honte, fuite devant Dieu. Le péché, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des chrétiens qui ont abandonné les assemblées au cours des années. J'en ai vu plein. Mais quand un chrétien, la première nouvelle que tu fais, il ne lit plus sa Bible. Bon, première étape. Deuxième étape, il ne vient plus à l'assemblée, ou du moins, il espace. Et première nouvelle que tu sais, il retourne dans le monde, puis il retombe dans ses péchés qu'il était avant. Toujours la même affaire. Alors, on a tendance à vouloir nous sauver nous-mêmes. On le voit dans le fait que, au lieu de reconnaître leur faute tout de suite devant Dieu, de confesser devant Dieu, ils cherchent à se couvrir. N'est-ce pas une tactique qu'on a quand on pêche, on cherche toujours à cacher notre faute aux yeux des autres, et même on a assez d'audace pour essayer de la cacher même aux yeux de Dieu. Mais les conséquences du péché, on les connaît, mais on pense qu'on les connaît, mais on en a une idée faible. La maladie, les guerres qui n'ont jamais arrêté de toutes les époques, de tous les temps, la vie, la violence, la vie dissolue. On a tous connu des gens qui ont vu des vies dissolues. On en a au milieu de nous. S'il y en a qui sont venus au Seigneur alors qu'ils n'ont pas eu de vie dissolue, ben moi je dis bravo, Dieu vous a fait la grâce d'épargner ce bout-là de vos vies. Mais d'un autre côté, Dieu se sert souvent de notre passé pour nous rappeler notre faiblesse, notre misère, et de nous aider dans notre compréhension des autres qui vivent des faiblesses aussi. Parce que plus tu en as eu dans ton passé, plus tu es capable de comprendre ceux qui vivent la même chose dans le présent. Alors, bien sûr, la vie dissolue, la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle, qui comprend exactement? On va toutes mourir, c'est toutes des conséquences de ce premier geste-là qui a été fait dans le jardin. La mort éternelle, spirituelle, ça veut dire que tous les êtres humains qui viennent au monde aujourd'hui sont tous pécheurs, on est tous pareils et on a tous la potentialité, je dis bien la potentialité, on ne fait pas tous les péchés possibles imaginables, mais je suis convaincu qu'on a tous la potentialité de faire les pires péchés qu'on voit autour de nous annoncés à la télévision. C'est juste une question de circonstances. Si on était placé dans des circonstances, peut-être qu'on ferait des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on était capable de faire ça. Mais ça, c'est l'être pécheur. Il est capable de toutes sortes de choses. Impossible. Je ne veux pas dire à cause qu'on ne l'a pas fait, qu'on n'a pas la potentialité de le faire. Alors, je dirais que le Seigneur nous donne de haïr le péché, de le mortifier à l'aide de son Saint-Esprit, de se repentir authentiquement, d'utiliser abondamment tous les moyens de grâce. Il y en a plein de moyens de grâce. C'est surprenant de voir jusqu'à quel point les chrétiens comprennent peu cette affaire-là. Les moyens de grâce, le Seigneur nous les a donnés, mais si quelqu'un te donne quelque chose et tu ne l'utilises pas, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. On n'utilise pas ce que Dieu nous donne. Alors, utilisons les moyens de grâce que Dieu nous a donnés. Implorons sincèrement la miséricorde du Seigneur, ses grâces prévenantes. On peut en demander des grâces prévenantes. Vous savez, c'est quoi une grâce prévenante? On sait qu'on a une certaine faiblesse. On peut demander au Seigneur, dans telle affaire, tu sais comment je suis. Accorde-moi une grâce prévenante. Une grâce prévenante, c'est qu'il va faire en sorte que tu ne tomberas pas. Il va te soutenir dans ça. Mais il faut les demander, c'est la prière. Et les grâces réparatrices et de consolation dans notre marche quotidienne. Quand on vit une vie de 30, 40 ans de vie chrétienne, au cours de notre vie chrétienne, on va vivre toutes sortes de choses difficiles et on a besoin que Dieu vienne par des grâces réparatrices nous relever quand on a tombé et nous consoler parce que des fois, c'est très triste toute cette histoire-là. Quand tu tombes des fois ou que Dieu t'envoie des épreuves puis que tu les traverses mal, des fois, ça te fait vivre du malheur, t'es malheureux. Mais on a besoin que Dieu nous donne de la consolation et répare ce que nous, on a brisé. Pas ce que lui a brisé, ce que nous, on a brisé. Prions notre grand Dieu pour plus de connaissances sur notre ennemi, Satan, sur nous-mêmes et sur les tragiques conséquences du péché, tant dans nos vies personnelles que dans les vies des hommes en général. Gloire à Dieu. Amen.
Amen.